Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette série de quatre cours sur Esterel. Donc, la chose qui m'a occupé principalement pendant les 30 dernières années et qui est assez abondamment documentée. Donc, vous trouverez bien sûr des tas de papiers sur ma page web, etc. Mais comme il y en a beaucoup, je vous ai fait à la fin de transparent une petite liste de références. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui est pratique, qui s'appelle « Programmation synchrone des systèmes réactifs avec Esterel et les 5 chartes » de Luigi Zaffalon à l'École d'ingénieurs de Genève. Et c'est un livre qui est très bien fait, entièrement plein d'exemples. Il y a des livres plus techniques et plus ardus comme « Compiling Esterel » par Dmitri Potop, Stephen Edwards et moi-même. Et puis, vous avez Esterel en coréen pour ceux qui aiment le coréen. Et puis, vous avez un livre très important qui s'appelle « Modeling Reactive System with State Charts ». Alors, je ne parlerai pas beaucoup des state charts, mais c'est quelque chose qui a marqué le domaine. J'en parlerai un tout petit peu. Et je commence par quelque chose de très intéressant pour la science. State charts, c'est vraiment une des grandes inventions de la programmation au XXe siècle, inventée par David Harel. L'article qui a présenté ça a été refusé par 4 journaux, ce qui est quelquefois un signe de qualité. Et l'article d'Esterel, le plus cité, qui n'est pas celui que je vous conseille de lire, n'a jamais été référié, parce que les référés n'ont jamais répondu. Il a été publié sans être référié, ce qui prouve que le système de publication n'est pas encore complètement au point, mais ça, on le sait. Alors, donc, Esterel a eu plusieurs générations, et on va parler de deux générations différentes. La génération V5, qui est une génération universitaire, ce qui ne veut pas dire amateur. Depuis le début, je dirais ça. Et Emmanuel Ledino, qui a été un des grands utilisateurs d'Esterel V5 et puis après du reste, nous parlera de son utilisation justement en avionique et chez Dassault en particulier, chez Dassault Aviation en particulier, dans le séminaire qui suivra immédiatement. Je dis ça pour les internautes que j'ai oublié de saluer. Et ensuite, Esterel V7, version tout à fait industrielle, dont on parlera dans les deux cours après, qui, après un succès technique considérable, est malheureusement morte de la crise de 2008, et est maintenant enterré, je le dis en public, chez Synopsys, qui refuse obstinément que même moi, j'en ai un exemplaire. Mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas d'en parler. D'autant plus que Esterel V7 était en normalisation I3E et que le document quasi final existe. Et donc, le langage appartient au domaine public. Alors, de quoi parlons-nous dans toute cette série? Eh bien, on parle de système réactif. Alors, en 1982, rappelez-vous, c'était l'enfance de l'informatique. Les stations de travail commençaient à exister, juste avec des 68 000. Et on travaillait avec des automaticiens dans 3 labos en France, Sofia, Rennes et Paris. Sofia, Rennes et Grenoble, désolé les grenoblois, sur ces systèmes-là, parce qu'on travaillait avec des automaticiens qui essayent de contrôler le monde avec des dispositifs électroniques en particulier. Et alors, un système réactif, c'est quoi ? Eh bien, c'est quelque chose, c'est une boîte qui a des signaux, des capteurs, et qui va fabriquer d'autres signaux et d'autres valeurs. Par exemple, un frein de voiture, un pilote d'avion, mais aussi une interface homme-machine, un joystick, un peu n'importe quoi qui ne calcule pas factoriel, mais qui fait une interaction constante avec son environnement. Et dans ces systèmes-là, il y a vraiment deux sortes de sous-systèmes. Il y a ce qu'on appelle les interactifs et ce qu'on appelle les réactifs. Les interactifs, c'est l'interaction est guidée par l'ordinateur, c'est lui qui dirige. Par exemple, le web, ce n'est pas vous qui dirigez les timings à l'intérieur du web, c'est le web qui vous donne les données quand il a envie, alors ce qui peut être assez lent quand on habite la campagne, comme chacun sait. Et par contre, les réactifs, c'est l'inverse, c'est le processus physique qu'on contrôle, qui est le centre, c'est lui qui dirige, c'est pas l'ordinateur. L'ordinateur est esclave du processus physique et pas l'inverse, physique ou mental, Par exemple, freiner dans une voiture, ce n'est pas le bon vouloir de l'ordinateur qui dit quand ça se fait. Donc, c'est deux choses qui sont en fait très différentes. Les systèmes interactifs ont donné les grands systèmes distribués de type web, et les systèmes réactifs ont donné tout le pilotage des objets que vous avez dans les mains. Et ça commence à se relier, comme nous le verrons dans un cours qui s'appelle donc Hop et Hip-Hop, où on va prendre les concepts de Esterel pour les mettre dans le web, avec Manuel Serrano, qu'on verra dans l'avant-dernier cours. Bien. Alors, à l'époque, on distinguait assez fort, pour des raisons techniques, deux choses différentes dans ces systèmes, le contrôle et les données. Donc, les données, ce qu'on appelle un système orienté données, c'est les données passent et on calcule dessus un peu toujours de la même façon. Faire voler un avion, c'est résoudre des équations différentielles, plus ou moins, et ces équations ne bougent pas trop avec le temps, et on les résout, et le programme fait toujours la même chose, mais dans un environnement qui est, lui, extrêmement changeant. Et puis, les contrôles, c'est l'inverse. On reçoit des signaux, des interruptions, des appuis de boutons, des pannes, etc. Il faut gérer tout ça. Et donc, on passe sa vie à changer d'action. Et ces deux domaines sont techniquement assez différents. Et ils étaient très distingués dans les langages. Et par exemple, Esterel a été conçu originellement pour le contrôle, et State Charts aussi. Et Argos et 5 Charts sont des variantes, Argos à Grenoble et 5 Charts à Sofia, sont des variantes fabriquées, des variantes graphiques prises sur le principe des State Charts, ce qui n'est pas tout à fait synchrone, comme on le verra. Ou comme on ne le verra pas d'ailleurs dans ce cours. Alors que Lustre à Grenoble et Signal à Rennes sont des langages orientés données, donc des blocs diagrammes d'automaticiens, si on veut, rendus réels et propres. Et ces choses-là étaient assez différentes. Maintenant, elles sont tout à fait mariées dans les nouvelles versions, STL V7 qu'on verra la semaine prochaine, et Scale 6 dont j'ai déjà parlé ici, et dont nous parlera Bruno Pagano en séminaire la semaine prochaine. Voilà. Alors, je rappelle des choses de manière inaugurale. Le temps multiforme hiérarchique, ça, c'est vraiment la naissance d'STL. Donc, quand vous avez des coureurs à pied sur un stade, ils vont manipuler des événements qui produisent des temps ou des quasi-temps qui sont de nature extrêmement variée. Mais ils sont de nature physique extrêmement variée, mais logique pareille. Par exemple, voilà l'interface en STL de mon module training, la chose qu'il faut que vous fassiez pour rester en forme. Donc, par exemple, vous avez le temps vrai. Enfin, le temps vrai, si tant est que ça existe. Hein. Seconde, heure, matin. Ça, c'est des unités du temps physique, si on veut. Le temps physique, personne ne sait ce que c'est. Hein. Jean Dalibard donne sa leçon inaugurale jeudi prochain. Je lui ai demandé s'il savait ce que c'était que le temps de physique. Il dit qu'il n'y a aucun autre moyen de le comprendre que de le considérer comme un paramètre des équations. Tout le reste, ce n'est pas de la physique. Ce qui n'empêche pas qu'on y pense. Et donc, on a des relations. C'est-à-dire qu'une heure implique une seconde. Il n'y a pas d'heure sans seconde. Et par contre, un matin implique une seconde. Ça simplifie, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais il n'y a pas forcément de raison qu'un matin implique une heure. Donc, qu'est-ce que c'est que ces relations? C'est des choses qui vont nous restreindre notre espace d'entrée, essentiellement. Et ça va être important en vérification en particulier, ou en optimisation. Et puis, on a d'autres signaux répétitifs qui vont se comporter comme des temps, le mètre, le tour de piste, le pas et le battement de cœur. Okay. Et il n'y a pas de différence logique entre dire attendre 10 mètres ou attendre 10 secondes. Ça, c'était vraiment le fondement d'Esterel. Il y a une relation qui dit que le tour de piste fait un nombre entier de mètres, si la piste est bien faite. Et puis ensuite, il va y avoir le code qu'on va voir après. OK, donc ça, je pense que c'est assez clair. C'est une notion de signaux qui tous fabriquent des temps logiques. Alors, le programme, il va marcher comme ça. Et je vais donner ces ingrédients, dont j'ai déjà montré ici, mais on va le détailler et le faire vivre, vraiment. Première partie, run slowly. Alors, ça, c'est une astuce, parce que run, c'est un mot-clé du langage qui veut dire exécuter un sous-comportement. Ça ne veut pas dire courir. Hein. Et slowly, ça va être un programme STL ou n'importe quoi, qui va faire le comportement d'aller doucement, par exemple pour un robot ou pour vous. Votre corps est plein d'horloges, hein, donc ça, j'espère en parler un de ces jours. Et donc, run, exécution d'un sous-module. Alors, mais run slowly, c'est quelque chose qui dure infiniment longtemps et on va le borner dans le temps. On va le borner dans le temps en disant comment ? En disant « abort run slowly when 100 meters ». On écrit toujours en anglais là-dedans, c'est comme ça. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on utilise une instruction de préemption. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans les langages classiques. C'est peut-être la première des inventions du domaine. La préemption, ça arrête l'exécution. Dans la programmation classique, il y a toujours des choses qui démarrent l'exécution. Dans les langages synchrones, comme STL, on va arrêter l'exécution. Donc, on arrête au bout de 100 mètres. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pendant 15 secondes, donc avec encore une préemption, à chaque pas, sauter et souffler. Ça aussi, c'est une préemption. Parce qu'à chaque pas, on va arrêter ce qu'on est en train de faire, et puis comme c'est une boucle, les vrilles, on va revenir, le recommencer à zéro. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme instruction là-dedans? Il y a la séquence temporelle, hein, c'est-à-dire c'est dans les temps, vous voyez, c'est des temps de l'environnement, ce n'est pas des temps de l'ordinateur, ça. Hein, et puis le parallélisme. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller à fond, hein, on a fini l'échauffement, on va à fond, et puis ça durerait un temps infini, mais on va le borner, et on va dire, refaire ça à chaque tour. Donc le tour est une unité temporelle qui va provoquer l'arrêt et la réexécution immédiate de ce programme, et borner le tout à 4 tours, et ensuite faire ça tous les matins, ce qui est encore une instruction de préemption, tous les matins, ou de déclenchement, tous les matins on va faire ça. Donc voilà ce programme, donc je pense qu'il se comprend très facilement. L'exercice vraiment intéressant, c'est d'essayer de l'écrire en C, en Java ou en ce que vous voulez. Vous allez voir que vous n'allez pas y arriver, et surtout pas y arriver d'une façon telle que le programme soit facile à modifier. C'est-à-dire, vous arriverez à écrire ça, mais si vous changez un tout petit truc, eh bien, il va falloir changer plein de codes dans votre Java, Automate ou n'importe quoi. Et donc ça, c'est la grande vertu de ces langages, c'est de savoir parler du temps. Alors, dernier ingrédient, j'en ai parlé aussi, cette partie-là est difficile pour le cœur, et donc on va surveiller le cœur, et s'il y a un problème de cœur, par exemple le cœur s'arrête, eh bien, on va arrêter tout ça à l'aide d'une instruction exit, et on va aller à l'hôpital. Alors, cette instruction exit, c'est ce qu'on appelle un traitement d'exception, ici, dans ce cas-là, mais ça sert à beaucoup plus que ça. Les exceptions, ce n'est pas exceptionnel. Trap, ça sert à tout, vous allez voir. Mais là, c'est visiblement un traitement d'exception. Alors, qu'est-ce qui fait marcher ce langage ? Eh bien, ce langage, il avait été inventé pour une course de voiture robot, je vous en parlerai après. Et la première chose qu'on a comprise, c'est que alors, le langage a été inventé par des automaticiens, mais qui étaient un peu informaticiens, qui connaissaient bien l'informatique, même Jean-Paul Rigaud, Jean-Paul Marmora. Et le style leur paraissait bien, mais ce n'est pas parce que le style est bon que ça fait du sens. Des langages de programmation foireux, il y en a plein l'informatique. Et donc, en regardant ça, moi qui faisais complètement autre chose, je me suis dit, bah, en fait, il y a une très belle idée derrière, c'est que ce programme est très facile à comprendre et à exécuter si l'ordinateur sur lequel on l'exécute calcule infiniment vite. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun problème. L'administration, c'est-à-dire point-virgule, parallèle et tout ça, ça prend un temps zéro si l'ordinateur va vite. La seule chose qui prend du temps, c'est ce qui est marqué prendre du temps, comme attendre un pas, comme attendre 100 mètres. Ça, ça prend du temps. Et on évite comme ça quelque chose qui est très, très constant dans les systèmes temps réel, classiques, en particulier avec des OS, qui est l'interférence entre le calcul, entre les événements de l'extérieur et le temps propre de l'ordinateur. Si on suppose que l'ordinateur n'a pas de temps propre, eh bien, on va complètement annuler cette interférence. Alors, on s'est fait jeter, hein. On s'est fait traiter de gens stupides pour dire ça. Il y a encore des gens qui pensent ça, d'ailleurs. Bon, simplement, tout le monde s'est aperçu maintenant que c'est ça qu'il faut faire. Mais par contre, il faut évidemment contrôler ce que veut dire. Quand est-ce qu'on est dans cette hypothèse-là ? Cette hypothèse-là, c'est la même que la mécanique newtonienne. Mécanique newtonienne, le Soleil et la Lune s'attirent en temps zéro. Il n'y a pas de temps dans les équations newtoniennes sur la gravité. Enfin, le calcul de la force n'a pas de temps à l'intérieur. Et la mécanique newtonienne, ça marche très bien. Bon, évidemment, les gens de la relativité de la mécanique quantique ont dit que tout ça, ce n'était pas vrai. Mais ça n'a aucune importance parce qu'en physique, ce qui compte, ce n'est pas d'être vrai ou pas vrai, c'est d'être suffisamment vrai pour la solution de son problème. Quand on fait du contrôle d'atomes uniques, on ne fait pas de la mécanique classique, mais quand on joue au billard, on fait de la mécanique classique. Et d'ailleurs, si vous suivez le cours d'Aroche, il vous expliquera que quand on travaille sur les atomes de Rydberg, on fait de la mécanique classique, même en quantique. Donc, c'est savoir utiliser le bon outil pour quelque chose de la clé. Et donc, on verra comment on réalise ça quand on verra la compilation. Voilà le code de Checkhart qui montre bien l'imbrication des temps. Tout ce qu'on dit, c'est loop, await 3 secondes, exit, heart attack, each heartbeat. Ça veut dire quoi ? Le comportement par défaut, c'est attendre 3 secondes et dire que le cœur a arrêté de battre. Et ce comportement est annulé et recommencé à chaque fois que le cœur bat. Vous voyez ? Donc ici, on annule les secondes par le battement de cœur, mais on pourrait aussi faire l'inverse. Toutes les unités de temps sont identiques conceptuellement. Donc c'est très simple, mais il faut s'y habituer. C'est-à-dire que quand on est habitué à programmer en C, il faut un temps d'adaptation mentale pour comprendre que c'est simple. C'est toujours plus difficile de comprendre les choses simples que les choses compliquées. Alors, donc les idées fondamentales, les voilà. Administration et communication en temps zéro. Parallélisme, déterminisme et compréhensible. Ah oui, ce programme-là est totalement déterministe. Dans la littérature informatique, on vous dit le parallélisme, c'est nécessairement non-déterminisme. Vous verrez ça marqué partout. C'est juste pas vrai. Il y a deux sortes de parallélisme, j'en ai déjà parlé ici. Il y a le parallélisme, trois sortes. Il y a le parallélisme asynchrone, qui est non-déterministe. Le parallélisme vibratoire, comme la propagation de l'électricité dans les circuits qui est non déterministe, mais confluent, et puis le parallélisme synchrone qui est, lui, déterministe. Et le rapport intéressant, c'est entre confluence et synchronisme. Bien. Dernier point, les instructions sont faites pour quelque chose de très important, c'est éviter le couper-coller. Le couper-coller est la plaie de la programmation, et donc le partage de comportement. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui, on va le voir, qui est plus compliqué à faire dans les langages Dataflow. La sémantique mathématique, alors tout de suite, on a dit, mais pour qu'un truc comme ça ait du sens, il ne faut pas faire comme les copains, il ne faut pas faire un langage avec un vague manuel en anglais, des instructions dont on ne sait pas trop ce qu'elles font, puis après, on se débrouille, on commence par coder, et puis après, on est coincé avec le langage pendant des mois. Je l'ai montré, par exemple, pour Stateflow. C'est un peu vrai pour StateCharts aussi, malheureusement, pour ça, parce que StateCharts n'a pas tout à fait pris la bonne notion de causalité. C'est lié à la compréhension des phénomènes de causalité dont on va parler. Et alors là, mon choix personnel, qui n'est pas le choix de tout le monde, c'est de ne jamais prendre de restrictions artificielles pour simplifier. Il y a des tas de choses qu'on peut faire pour simplifier. On dit « Oh, ce cas est compliqué, donc je ne le traite pas ». Par exemple, il y en a une qu'on discute beaucoup, c'est « Je vais mettre des retards, comme ça ». L'utilisateur, il s'en fiche d'avoir un retard en plus. Je mets un retard, comme ça, il y a tout qui est simple. Et bien ça, j'y crois pas, surtout quand on fait des circuits. Mettre des retards dans les circuits, c'est une opération qui coûte très cher. Et en fait, ce qu'on fait souvent, c'est de reporter la difficulté qu'on a soi-même en tant que concepteur de langage et de compilateur, de la reporter à l'utilisateur. Et ça, je pense que c'est pas gentil pour l'utilisateur. Alors, il y a des fois où on fait des restrictions, on le verra dans la compilation. C'est pas pour simplifier, c'est parce qu'on a des compromis. Propreté, complexité à gérer. Mais quand on a compris totalement la propreté, on peut gérer ses compromis. Mais les faire avant de comprendre, ça c'est dangereux. Pour moi. On voulait avoir une implémentation, une utilisation professionnelle, c'est-à-dire même si c'est universitaire, moi j'aime pas les protos, je trouve qu'on n'a pas le temps de faire des protos, c'est trop coûteux de faire des protos, autant passer direct à la vraie chose. Et je voulais pouvoir, en gros, voler sur le compilateur, même universitaire. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais moi, je n'ai jamais volé sur le compilateur universitaire. Je ne sais pas si des gens ont volé sur le compilateur universitaire. Et puis, avoir de la vérification formelle, parce que je pense que débugger les programmes, c'est trop sérieux comme activité pour être laissé à des humains, et que la seule solution de débugger vraiment des programmes, c'est de le faire par d'autres programmes. Et ça, ce sera, dans 2 ans, on va consacrer l'année entièrement à ça. Et puis ensuite, avoir des vrais utilisateurs professionnels et pas des groupies. Donc la différence entre les groupies et les utilisateurs professionnels, c'est que les groupies, ils utilisent ça parce que ça leur fait plaisir, alors que les professionnels, ils utilisent ça parce que ça leur sert dans leur métier et pas uniquement pour leur faire plaisir. Travailler avec des professionnels, c'est beaucoup plus dur, mais je trouve ça beaucoup plus rigolo. C'est beaucoup plus exigeant. Puis surtout, on a des critiques qui ne viennent pas de son même monde. Je pense qu'Emmanuel Ledino aura quelques petits messages à donner là-dessus, on verra. Alors, expliquons un tout petit peu maintenant les fondements de la SRL avant de rentrer un peu dans les détails. Donc, le principe est tout bête, hein. Votre ordinateur va infiniment vite et le seul moment où il attend, c'est quand il y a marqué « attendre ». Alors, l'instruction de base pour attendre, c'est « pause », qui veut dire « attendre un coup ». Donc, le coup, c'est quoi ? Eh bien, c'est une excitation du système. Le système, tout seul, comme il va infiniment vite, il passe son temps à ne rien faire. En dehors des moments où il ne travaille pas. Donc, il travaille par des diracs de temps. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il attend un signal de l'environnement, qui peut être une seconde, un mètre ou n'importe quoi, ou un tic de façon générale, on appelle ça un tic. Il attend, là, il travaille en temps zéro, puis il attend le suivant. Alors, regardons le premier tic, on dit émite A, donc on émet A. Ensuite, le contrôle passe, comme d'habitude, par la séquence à émite B, mais sans changer d'instant, puisque l'ordinateur va infiniment vite. Donc, on émet B dans le même instant, et ensuite, on fait pause. Donc là, on change le temps. Là, le temps passe, on attend l'entrée suivante. Pause, ça veut dire attendre l'entrée suivante. À l'entrée suivante, pause se termine et on émet C. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait simple. Une fois qu'on a compris que c'est aussi bébête que ça, on est prêt à en tirer toutes les conclusions, ce qui peut prendre 20 ans, mais ça, c'est la vie. Alors, le parallélisme. Alors, comment ça marche ? Eh bien, c'est du parallélisme synchrone. C'est-à-dire le temps est le même pour les deux composantes, et quand elles se parlent, elles vont s'entendre instantanément. Ça, je vais en parler après. Alors, ici, on va donc démarrer au premier instant. Alors, attendre A, attendre B, ça veut dire quoi ? C'est qu'à chaque instant, ces instructions await se réveillent et regardent s'il y a le signal mentionné. Est-ce que A est là ? Si oui, elle termine, c'est tout. Ça, c'est await. Donc, qu'est-ce qui se passe, mettons ? Ici, on fait attendre A, attendre B. Quand on a A, on émet C dans le même instant. Quand on a B, on émet D dans le même instant. Et quand les deux ont fini, en temps zéro, on passe à la suite. Donc le parallèle est synchronisant, il se termine exactement quand les deux se sont terminés. On passe à E. Alors ça fait quoi ? Ça fait ça, par exemple. Là, on a eu A qui a fait C, puis B qui a fait D et E. Comme A est déjà terminé, la branche de gauche est déjà terminée. Quand la branche de droite termine, tout termine et on a E. On peut avoir une autre exécution du type BD ACE. Et puis on peut avoir une troisième exécution où A et B arrivent ensemble, et dans ce cas-là, on a CDE ensemble. Donc la notion de ensemble et de simultané ne pose aucun problème, comme dans les circuits d'ailleurs. Donc ça, c'est la définition de parallèle. On peut vérifier par un tas d'arguments mathématiques que c'est forcément la bonne et que toutes les autres sont très faciles à dériver de celle-là, alors que celle-là est impossible à dériver des autres. Alors, préemption. Qu'est-ce que c'est la préemption? Regardons par exemple EYTX et MITY. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Attente et préemption. Alors, quand je dis attendre X, ça prend au moins un tic, au moins un. Ce n'est pas instantané. Donc, par exemple, ici, voilà, await x et mit y, quand j'ai x, j'ai mes y. Bon, c'est bien. Par contre, si au moment... Alors, abort p, when x et mit y, c'est ce qu'on appelle une préemption forte, c'est-à-dire que p va être exécuté jusqu'à ce qu'on ait x, et à ce moment-là, p n'est pas exécuté. Au moment où la condition de préemption arrive, p meurt sans avoir sa chance de parler. Ça, vous allez voir, c'est très, très important, mais ce n'est pas la seule possibilité. Et puis, s'il y a X qui arrive tout de suite, ça ne change rien. C'est-à-dire que le premier instant est ignoré. Await et abort prennent forcément du temps. D'accord ? Quand il démarre, ben, on lance le corps normalement. Il y a une autre version qui s'appelle immédiate. Donc, l'immédiate, eh bien, c'est pareil quand c'est pas au premier instant, c'est la même chose. Mais quand c'est au premier instant, vous voyez, pour await ici, eh bien, X est pris en compte immédiatement. Donc, en synchrone, on a toujours des problèmes de poteau. Quand on dit qu'il y a un événement qui se produit, est-ce qu'on bosse, est-ce qu'on ne bosse pas? Est-ce qu'on tue, est-ce qu'on ne tue pas? Il faut régler ces problèmes de poteau. On ne peut pas les laisser au hasard. Eh bien, il y a quatre sortes de poteaux. On va voir comment elles marchent. Alors, si on fait P, abort P ou an immediate X, bon, ben, si X est loin, c'est pareil. Et si X est tout de suite, eh bien P n'est pas exécuté du tout, puisqu'il est immédiatement tué sans avoir sa chance. Donc ici, on a vu le premier poteau, c'est le poteau du début. Est-ce qu'on prend en compte le signal immédiatement ou pas? Ben, c'est explicite. Le défaut, c'est de ne pas le prendre immédiatement et de marquer immédiate si on veut le prendre. C'est long comme mot, mais ça se voit. Préemption faible, on verra d'ailleurs que immédiate se déduit de abort, hein, alors que l'inverse, ce serait plus compliqué. Préemption faible, c'est l'autre sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au bout, au moment de l'arrêt? Donc, ici, au moment de l'arrêt, si je mets oui qu'aborte, alors P a sa dernière cigarette, là. Il est exécuté au dernier moment. Donc, on peut choisir, en fonction de mettre aborte ou oui qu'aborte, on choisit si P est exécuté ou pas au moment de sa mort. Et ça, ben, les deux cas sont utiles. Dans tous les programmes, on trouve les deux. C'est comme ça. Et si X est là tout de suite, ça ne change rien du tout, puisque là, comme c'est un abort faible au bout, mais pas faible de ce côté-là. Et par contre, si on fait un weak abort ou an immediate, alors dans ce cas-là, il est faible au debout, et on a P à la fin, et on a aussi P au début si X est là tout de suite. Donc voilà, il y a quatre cas, et il y a quatre cas, et on les traite, et puis c'est comme ça. Et voilà la matrice de ces quatre cas. Hein, quand réagir à X, quand... tuer P, et puis vous avez le point le plus faible qui est abort when immediate, ça c'est le plus drastique, et le plus doux c'est weak abort when immediate. Alors, deuxième chose, le partage de code. J'ai déjà montré ça, mais il faut absolument le remontrer. Donc, le Fibonacci des CRL, je ne parle pas de factoriel, il n'y a même pas, c'est trop simple. Le Fibonacci avec deux récursions, c'est Abro. Abro, c'est un programme qu'on trouve partout. C'est un synchroniseur, on le reverra dans EPUB, on le voit dans la mémoire des ordinateurs. C'est la chose suivante. Émettre O dès que A et B sont arrivés, réinitialiser le comportement chaque R. Par exemple, A, c'est, vous voulez écrire dans une mémoire. O, c'est write memory. A, c'est data, et B, c'est adresse. Pour déclencher l'écriture mémoire, il faut avoir l'adresse et la donnée. Et quand on les a, il n'y a aucune raison de prendre du temps. On écrit tout de suite, par exemple. Hein, ça peut être variable. Et R, c'est le write request, par exemple. Ça peut être tout à fait ça. Alors, la façon standard d'écrire ce genre de choses, c'est de faire un automate. Et donc, l'automate, c'est un carré. On met A, on a soit A d'abord, B d'abord, B après, soit B d'abord, A après, soit A et B en même temps. Dans tous ces cas-là, on émet O. Bon, il manque un petit délai initial, mais ce n'est pas grave. on met O, et puis dans tous les états, quand on a R, on revient à l'état initial. Donc ça, c'est la méthode que vous verrez très souvent. Et cette méthode-là n'a à peu près que des inconvénients. On le verra. Pourquoi ? Parce qu'elle ne passe pas du tout à l'échelle, et en plus, elle n'est pas optimisable. C'est assez remarquable. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais j'en ai déjà parlé un peu ici. Gros problème, c'est couper-coller. Il y a 3 fois A, il y a 3 fois B, il y a 4 fois R, il y a 3 fois O. C'est rien que du couper-coller. Couper-coller, ça tue les programmes. La spécification était linéaire, il y a une fois O, une fois B, une fois R, et là, elle est quadratique. En fait, elle est exponentielle, on va le voir. C'est pas bien. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Et en plus, elle est imprécise, parce qu'on ne dit pas, là, dans cet automate, s'il y a A, B, R en même moment, qu'est-ce qui se passe ? Alors, comment on écrit ça en STRL ? Eh bien, on va commencer par dire, ce diagramme-là, ce carré-là, ce diamant, c'est simplement parallèle. Je fais deux choses en parallèle, j'attends A et j'attends B. Ça, c'est en parallèle. Ensuite, dès que j'ai fini d'attendre A et B en parallèle, le dernier des deux, c'est ça que ça veut dire, j'ai mes O, tout de suite. Et ensuite, j'attends. J'attends quoi ? J'attends R. OK ? Donc ça, c'est le code STRL. Et le code STRL est strictement conforme à la spécification. Il est linéaire, A, B, O, R, une fois. Et il dit exactement ça. En plus, il donne les priorités. Comme là, j'ai mis un abort fort. Quand il y a R, j'ignore A et B s'ils étaient là. Si j'avais mis weak abort, ça aurait été différent. S'il y a R, A et B ensemble, j'aurais mis O quand même. Donc, on va jouer sur ces phénomènes temporels avec des petits mots, pas avec des grands dessins. C'est très, très différent. Alors, ça impose de comprendre ce qu'on fait. Un des défauts d'STRL qui nous a été reproché, c'est qu'on ne peut pas se ruer sur un terminal et écrire n'importe quoi en espérant que ça marche. Moi, je n'appelle pas ça un défaut. Les bons langages sont comme ça, Camel est comme ça, se ruer dans un... et espérer que ça va marcher par hasard, ce n'est pas vrai. Ça, et dans les systèmes critiques, on n'a vraiment pas envie de ça. Bien. Alors, pour ceux qui se rappellent du cours lambda calcul, ça rappelle des histoires de résidus. En fait, ici, on a l'événement primitif A et B, là, qui sont accessibles tout de suite. Et quand on fait A, ce B-là, c'est le résidu ou la dérivée de ça par cette flèche-là. Et on voit que ce que fait STRL, c'est de partager les résidus au niveau du source. Donc, la clé, c'est la notion de résidu. Je vous renvoie à mon cours sur lambda calcul il y a 3 ans. Mais je ne vais pas en parler ici. Alors, les 5 charts, issus des state charts, c'est ça. C'est des automates hiérarchiques, donc c'est des dessins, mais hiérarchiques. Vous voyez, ici, vous avez un petit automate avec une préhension forte. Ici, c'est le rond rouge, ça veut dire fort. Si vous enlevez le rond, ça fait weak. Et ici, ce double cercle, c'est terminaison, comme d'habitude dans les automates. Donc, vous avez là qui attend A, là qui attend B. Ce petit triangle vert, c'est la séquence. Et donc, O ici et R ici. Et donc, cet automate se traduit, d'ailleurs, c'est comme ça que c'est implémenté, se traduit dans ce code STRL. Et on a une autre vision. Et les deux visions sont intéressantes. Hein. Et savoir laquelle est la bonne, ça dépend beaucoup des gens. Il y a des oraux comme moi qui préfèrent le texte, il y a des visuels qui préfèrent le graphique. Le graphique est beaucoup plus long à faire, surtout à rendre joli et à malaxer. Par contre, il est très agréable à débugger. Donc, peut-être que Emmanuel en parlera, je ne sais pas, un peu. Voilà. Bon, alors sidecharts, c'était vraiment cette idée d'automate hiérarchique est née dans sidecharts. David Harel a fait une autre approche. Au lieu d'essayer d'être super rigoureux, il a essayé d'être super inventif et de voir tout ce qu'on pouvait faire avec cette idée-là. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Il faut vraiment lire son papier. Mais par contre, au niveau implémentation, sémantique et tout, quand même, ça a des faiblesses. Qu'on peut. Bon, alors, on peut mélanger les deux mondes et le travail d'Harel est fondamental. Alors, voyez, si vous mettez ABC au lieu de AB, et bien voilà l'automate pour ABC et voilà le programme. Voilà, l'automate et ce qu'il veut dire, et puis voilà le programme où le 5 charts pour ABC, c'est complètement linéaire. Donc évidemment, avoir un source exponentielle, ce n'est pas une très bonne idée dans la vie. Mais il y a des tas d'autres raisons pour lesquelles les automates sont mauvais. On en parlera dans la compilation de SRL V7. Il est impossible d'optimiser un automate, alors qu'il est très facile d'optimiser un 5 charts. Ça, c'est vraiment très important. Alors, on va rentrer dans un exemple un peu plus direct, un peu plus structuré, avec plus de modules. Alors, cet exemple date de 86, mais je le trouve toujours aussi bien, puis c'est celui qui est dans la bande de distribution, qui n'est pas encore vraiment disponible, mais on y travaille avec Paris 6, avec Emmanuel Chaillou en particulier, pour la rendre disponible. Parce que, vous savez, le logiciel, ça rouille, alors le système a été arrêté, en gros, développé en 2000 et il ne recompile plus, quoi. C'est comme ça, hein. C'est du C++, C++ de 2000, ça n'a aucune chance de compiler maintenant. ESRL de 2000, ça compile toujours, hein, je vous rassure. Voilà, alors une montre digitale, à l'époque, c'était ma montre Casio, assez simple. Donc, quels sont les événements ? Eh bien, vous avez la centième de seconde et la seconde qui viennent du quartz. Vous avez quatre boutons que j'appelle upper left, lower left, upper right, lower right. Ça, c'est les commandes d'entrée. Et puis, les sorties, ben, vous avez un grand display, un petit display pour les jours, etc. Bon, ça n'a pas trop d'importance, on ne va pas s'intéresser à tous les displays. Vous avez un certain nombre de choses sur l'écran. Vous prenez un cockpit d'A380, c'est juste la même chose en plus gros, hein, en beaucoup plus gros. Et c'est fait avec ces technologies. Alors, regardons un peu à quoi ça ressemble. Eh bien, voilà les entrées, donc seconde, centième de seconde, etc. Alors, on va faire une montre modulaire, c'est-à-dire on va la faire à partir de composants. Et donc, les composants, il y en a cinq. Ici, il y a une montre, un réveil, un chronomètre. Il n'y a pas besoin de redévelopper ça à chaque fois, c'est des modules de bibliothèque, si on veut. On va les assembler. Comme ça qu'on fait les chips modernes ou les programmes modernes très souvent. Alors, les quatre signaux vont arriver au gestionnaire de boutons. Et qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il va étudier, vous savez, c'est modal, une montre. Quand vous appuyez sur un bouton, ça change de mode. Donc, le sens des boutons change. Donc, ce qu'il va faire, c'est de démultiplexer ces quatre commandes pour les transformer en une vingtaine de commandes qui sont les commandes de l'API, Application Programmer Interface, c'est-à-dire les signaux d'entrée de ces objets-là. Donc, le button handler, il va avoir des signaux locaux, des internes à la montre, qui vont parler à la montre, au réveil et au chrono. On va regarder le chrono. Par exemple, ces signaux, c'est démarrer, arrêter. Alors, des fois, c'est le même, des fois, ce n'est pas le même. Là, j'ai dit toggle. Vous savez, il y a toujours moyen d'avoir deux boutons ou un bouton quand on veut faire un bistable. Démarrer, arrêter, et puis geler le temps. Vous savez, quand le chrono tout continue à tourner, mais vous avez mesuré le temps du premier, puis après, vous prendrez le temps du second. Et puis après, avec une complexité un peu plus grande, vous allez faire reset. On va voir ça. Et puis, la seconde va à la montre, qui n'a pas besoin du centième de seconde. Le centième de seconde va au chrono, qui n'a pas besoin de la seconde. Et puis, la montre envoie l'heure au réveil. Le réveil, ce n'est pas lui qui calcule l'heure, c'est la montre. Donc, ça discute là-dedans, mais ça discute en temps zéro. Hein, la discussion ne coûte rien. Et puis ensuite, chacun de ces objets va envoyer des informations sur le display. Même le bouton, il dit dans quel mode on est sur le display. Il dit si on est en mode montre, etc. Bien. Et puis ça va finir par afficher quelque chose. Et donc, ce programme-là va être modulaire. Il est intéressant parce qu'il contient beaucoup de cas vraiment typiques. Alors, voilà un petit bout de ce programme. Le gestionnaire de boutons, ben, c'est une boucle sur trois modes. Le premier mode, c'est le mode montre. On en change quand on appuie sur le bouton bas gauche. Ça, c'est Casio. Pareil, on passe en mode... on passe en mode chrono. Du mode chrono, on sort en appuyant sur le même bouton bas gauche. On passe en mode alarme. Et on revient en mode, etc. Donc, c'est une boucle sur ces trois modes. Et là, dans chacun de ces modes, le button handler va définir que veulent dire les commandes. Il va dire si on appuie sur le bouton... bas droite, hein, ça veut dire start-stop au chronomètre, et si on appuie sur le bouton haut droite, ça veut dire geler le temps au chronomètre. D'accord ? Et il y a un peu la même chose sur les autres. On verra qu'en SRL V7, ça a été beaucoup allégé. Voilà le code du chronomètre, hein, parce qu'il va introduire d'autres notions, il va introduire les valeurs. Donc ici, on a des types, en SRL V5, on a des types absolument quelconques. Et en fait, c'est des types abstraits, ils s'appellent time, on ne dit pas ce que c'est. En SRL V7, on va dire très 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 finement ce que c'est que les types. En SRL V5, on reporte ça au langage d'implémentation, que ce soit C, Java, VHDL, C++, ce que vous voulez. Voilà, donc on va dire, on va définir un trap pour faire le reset, et on va dire, on a un temps interne dans le chronomètre, donc ça, c'est les signaux locaux, on a un temps interne qui est le type temps, et puis on a un signal qui va vouloir dire est-ce que le chronomètre est arrêté. On va en avoir besoin pour calculer le reset. Et puis, ce temps interne, on commence par l'initialiser à 0, qui est une valeur de l'API des temps, hein, on ne sait pas ce que c'est là. Et le premier truc qu'on dit, c'est attendre start-stop, et pendant ce temps-là, vous hurlez stop, stop, stop à chaque tic. Ça, c'est destiné à l'autre morceau. Ensuite, dès qu'on reçoit start-stop, ce qu'on fait, c'est tout simple, c'est à chaque centième de seconde, on émet une nouvelle valeur du temps avec comme valeur l'incrément de la valeur précédente du temps. Donc, pré, c'est un opérateur lustre, originellement, qui veut dire prendre la valeur et signal, d'ailleurs, prendre la valeur précédente du tick précédent. Au début, ça n'y était pas dans Esterel parce que ce n'était pas primitif et ça a beaucoup embêté les utilisateurs et la vie s'est simplifiée quand on l'a mis après. C'était une erreur de notre part, ça. Donc, évidemment, on ne peut pas écrire et mettre le temps, la nouvelle valeur du temps avec incrément de la nouvelle valeur du temps. Parce que sinon, la nouvelle valeur du temps devrait être incrémentée infinie fois en temps zéro. Ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on met un retard ici. Bon, ça, c'est classique en automatique. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est l'allumage et l'arrêt du chronomètre. Ça marche comme ça. Et par contre, qu'est-ce qu'on met sur l'écran? Eh bien, par défaut, ici, le display time, c'est le internal time. Ça, c'est par défaut. Sustain, ça veut dire émettre continuellement. C'est loop, emit, pause, loop, emit, pause, loop, emit, pause. Mais c'est tellement utile qu'on lui a donné un nom. Donc, on émet sur l'écran le temps interne. Ça coûte zéro. Il n'y a pas de coût associé à cette opération. Hein. Jusqu'à ce qu'on reçoive la commande de geler l'écran. La commande de geler l'écran, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle arrête de changer le display, tout simplement. Donc, elle ne fait rien. Il suffit de ne rien faire. Et puis on attend la nouvelle commande de remettre le display en fonction, la commande ici. Donc on a une boucle bistable ici. Par contre, le seul truc, c'est sur le reset. C'est à ce moment-là qu'on se demande si on a stop, si l'autre partie est en train de gueuler stop. Et si oui, on fait reset. C'est comme ça qu'est fait le reset sur cette montre. Il faut un bout de temps pour le comprendre et ce n'est pas dans la doc d'ailleurs. Bien, donc vous voyez, c'est assez simple. On a des signaux qu'on ait valeur, etc. Et puis, on se cause en temps zéro, on se met en parallèle, tout ça ne coûte rien du tout, et à l'implémentation, ça ne coûte pas grand-chose non plus. Ah, le parallélisme, on a l'impression que ça coûte cher, on va faire des threads, on va faire des OS, on va faire... Non, il n'y a pas d'OS, il n'y a pas de thread, il n'y a rien du tout, le parallélisme. Alors, soit on fait des circuits, dans ce cas-là, le parallélisme, c'est l'électricité qui sait faire que le parallélisme, soit on fait des logiciels, dans ce cas-là, le parallélisme, on va l'enlever, on va le supprimer, et on va faire du code tout séquentiel qu'on n'aurait jamais écrit à la main, mais qu'un compilateur sait très bien écrire et qu'on sait prouver. Alors, un tout petit peu d'histoire avant de rentrer dans le langage et sa sémantique. Ça a commencé, je l'ai dit, par un concours de voitures autonomes en 1982, où le labo avait construit une voiture de course super chiadée, qui avait une accélération fantastique, des freins à disque, des algorithmes pour couper les virages. La piste, c'était des morceaux de scotch par terre et il y avait une ligne de départ. Et il fallait faire un tour à la vitesse qu'on voulait pour reconnaître la piste et deux tours à fond. Et la voiture était super forte en virage. Et par contre, en ligne droite, on avait un petit labo, on n'avait pas la place. Donc en ligne droite, elle n'était pas terrible. Et le jour de la course, ils l'ont mise sur la piste. Elle a fait un tour tout à fait correct. Mais après, elle a été battue par une voiture à vitesse constante faite par des ados d'un collège. On ne peut pas battre des ados dans la vie, c'est connu. Et ils l'ont mise à fond. Pour essayer de voir, mais il savait qu'en ligne droite, elle allait sortir. Mais heureusement, pendant le tour de reconnaissance, un photographe a pris un flash et ça a perturbé les capteurs de la voiture. Et elle est partie, dans son tour de course, elle est partie à fond la caisse, arrivée au milieu de la ligne droite au moment où elle allait se cracher. Elle a freiné un grand coup, elle a fait tchac-tchac. Ça, c'était le flash. Et elle a battu le record du tour. Mais dans la course, elle a été seconde derrière la bagnole à vitesse constante, analogique, les yeux rivés par terre. Pour ça, l'analogique, ça a du bon. La logique des années 50, c'est très bien. Alors, en 83, on a commencé à faire le premier vrai langage et puis des essais sémantiques avec les outils de l'époque qui étaient déjà très, très chiadés. Il y avait en particulier les calculs CCS de Minder qui, eux, sont inopérants pour ça parce qu'ils sont complètement asynchrones. Mais Minder avait fait un calcul qui s'appelle Synchronous CCS, qui est devenu MEJ après de Gérard Boudol et qui était beaucoup plus puissant, que Minder lui-même n'a jamais aimé, je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'était pas son truc. Mais qui s'est avéré pas suffisant pour Esterel parce qu'on ne pouvait pas parler de notre causalité, de négation et de trucs comme ça. En 84, Laurent Cossera a fait sa thèse et un tout premier compilateur, et ça, c'était majeur. Donc, Laurent Cossera était chiffre Renault, et donc on commençait déjà à travailler avec l'industrie. En 85-86, moi, j'avais pris une sabbatique à Paris avec Philippe Couronnet pour écrire le premier vrai compilateur en le Lisp, Esterel V2, qui a eu une vie respectable, qui marchait très bien. Et il utilisait une méthode qui est très chère, très belle, mais très chère, la résiduelle de Brozovski, que j'ai expliqué dans mon cours 5 de 2010, une méthode de calcul formel sur les programmes qui permettait de transformer un programme en automate. C'était pas mal, mais c'était une très belle étude de faisabilité, ça a servi. mais c'était lent à la compilation. En plus, les machines de l'époque étaient lentes. C'était lent et c'était explosif dans la taille du code généré, qui était exponentiel, puisqu'on générait l'automate qu'on avait essayé d'éviter à l'écriture. On a commencé à avoir des utilisateurs, donc Dassault Aviation, Emmanuel Odino qui va faire le séminaire, Bertin, Renault, Thomson, etc. En 86-89, un événement très important pour nous, c'est la thèse de Georges Gontier, qui a complètement changé le sujet, en comprenant énormément de choses sur la causalité, et qui a permis de développer un nouveau vrai compilateur STL V3, qui était toujours explosif en état, mais qui était super rapide. Vérification par automate, auto-autographe de Robert de Simone, Didier Vergamini, Valérie Roy, et début de l'industrialisation par Sisi Ingénierie, puis ILOG. En 90-92, autre changement total, Jean Vuillemin, qui avait monté un labo à Digital Equipment Paris Research Lab, à l'époque où Digital Equipment était la deuxième compagnie du monde en informatique, juste avant de devenir la 0e, ils m'avaient invité pour... Ils venaient de toucher les premières machines FPGA, circuits reprogrammables. Ils savaient bien faire les parties données, mais pas les parties contrôle. Ils m'avaient invité pour voir si STL pouvait servir à ça. La réponse a été oui. Et on a, alors là, inventé quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. Moi, je ne connaissais pas les circuits. Hein. Quelque chose de tout à fait nouveau pour nous, qui est une traduction directe en circuit d'STL, absolument directe, qui permettait aussi de faire du logiciel et qui permettait aussi de passer aux nouveaux outils de preuve formelle, les BDD, dont on parlera dans 2 ans, donc, avec Madre, Couder et Toiti, qui avait fait un système formidable qui a servi, en particulier chez Dassault, à faire de très grosses preuves, en 91 ou 12, à une époque où le sujet était complètement naissant. Alors la traduction au circuit, ça a tout changé, ça a beaucoup embêté nos industriels, parce qu'ils venaient de finir la version d'avant, et je leur disais, bon, mais vous savez, c'est complètement périmé, les industriels n'aiment pas trop ça, ce qui est assez normal. Mais bon, finalement, ça a gagné. Et en fait, c'était aussi compatible avec la précédente. Le langage n'a pas changé. En 99-2000, nouveau progrès que je vous montrerai la fois prochaine, la sémantique constructive qui résolvait pour moi définitivement, bien qu'il y ait encore des gens qui pensent différemment, il y a toujours des gens, on pense différemment dans la recherche, heureusement, qui résout pour moi définitivement le problème de la sémantique des STL. Il a fallu un peu plus de 20 ans. Un nouveau compilateur STL V5, toujours compatible, mais permettant de faire des choses malignes, en particulier de traiter les cycles, comme j'avais montré dans les circuits. Le passage à l'échelle industrielle dans les circuits, avec Synopsys, donc leader deuxième à l'époque de la CAO électronique, décidant de faire un produit avec STL, avec Cadence décidant, le leader à l'époque de la CAO électronique, 2 startups de Berkeley faisant chacune plus $1 milliard de chiffre d'affaires. Hein, ce n'est pas des petites boîtes. Et puis Intel s'intéressait bougrement à STL pour les parties contrôle des circuits. Stephen Edwards à Columbia University faisant un compilateur différent sur des bases complètement différentes et générant du C très très efficace pour le même langage. Il est dans le livre Compiling STL ici, hein, qui a fait tous les compilateurs sont dedans. Charles André faisant la Think Chart, donc grosse période d'expansion. Et puis en 2000 à maintenant, STL Technologies, nouveau langage STL V7, ça on en parlera après, mais aussi Quartz en Allemagne à Kaiserslautern, mais aussi Reactive CCP de Sarasvat à IBM, enfin les idées qui étaient dans STL qui commencent à se répandre, sûrement pas comme une traînée de poudre, mais chez des gens qui travaillaient sur ces sujets-là. Ces sujets-là sont toujours restés un peu marginaux en informatique, ce qui est extrêmement curieux, parce que la plupart des ordinateurs mondiaux font tourner des programmes de ce type. Hein, il y a beaucoup plus d'ordinateurs qui font tourner des programmes comme ça que d'ordinateurs qui font tourner des programmes... Enfin, maintenant, non, avec les téléphones portables, il y a les deux en même temps. Bien. Et puis, Hipop, dont nous parlerons ici, qu'on développe avec Manuel Serrano pour faire l'orchestration web avec les idées d'STL. À suivre, hein, dans les cours qui suivent. Alors, pour expliquer le langage et la sémantique, on a besoin de comprendre comment on va traiter en même temps un langage textuel vu de l'utilisateur et un langage mathématique vu du concepteur du langage, vu de la définition du langage. C'est-à-dire la définition du langage, c'est des maths, c'est pas du baratin. Hein, et c'est vrai aussi pour Skate 6, par exemple, qui est probablement le seul langage tout à fait professionnel sur lequel vous allez voler dans à peu près tous les avions du monde, qui est défini par des équations, des vraies. pas forcément des équations, mais de la logique. Alors, ici, on va avoir besoin d'un ingrédient technique assez simple, c'est le codage de Gontier sur la numérotation des trappes qui joue un rôle extrêmement important et dont il se trouve que c'est un codage qui est très très relié au cours précédent sur les nombres de Hadic. C'est un codage de Hadic de la façon dont le contrôle se propage dans le programme. Alors, vous avez les instructions, vous avez trois instructions intéressantes. Nothing, je vais appeler ça 0. Pause, je vais appeler ça 1. Sortir d'une trappe, sortir de la trappe la plus près, exit U, je vais appeler ça 2. Sortir de deux trappes englobantes, je passe à travers U, donc j'appelle ça 3, etc. Je compte le nombre de trappes que je traverse plus 2. Alors, ça, c'est aussi ce qu'on appelle le codage de De Bruyne en lambda calcul, c'est assez connu. Mais pourquoi c'est important? Eh bien, parce que si on regarde ça, il y a déjà une loi qui s'exprime assez bien. Si deux trappes sont levées en même temps, seul le plus extérieur compte. Ça, c'est une loi très fondamentale d'Esterel. C'est celle-là qu'il faut prendre. Si on en veut une autre, elle est très facile à faire. Si on veut celle-là, elle est difficile à faire. C'est toujours la bonne raison pour choisir quelque chose plutôt qu'autre chose. Bon, donc 3 à la précédence sur 2. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand. Maintenant, regardez bien le parallèle. On a dit un parallèle termine si ces deux branches terminent. Si ces deux branches terminent, ça veut dire 0, 0. Donc 0, 0 va donner 0. Un parallèle s'arrête si une branche s'arrête et l'autre pas. Donc 1 et 0. Par exemple, s'il y a l'une qui termine et l'autre qui s'arrête, ça fait 1, 0. 1 gagne sur 0. S'il y a un trap, il a précédence sur la terminaison et sur l'arrêt, sur la pause. Donc 2 est plus grand que 1 ou 3 est plus grand que 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le parallèle, c'est simplement le max. Un parallèle, c'est juste un opérateur de maximum. Ça dit, quand vous voulez savoir le comportement d'un programme parallèle, vous regardez le code de retour, le code de terminaison de chacune de ces branches, vous calculez le max et vous savez tout du parallèle. Et ça, c'est extrêmement important parce que, alors, max, c'est pas. En plus, max a une implémentation géniale qui n'était pas connue, moi je ne la connaissais pas, mais qui est complètement géniale. On va la voir la prochaine fois. Mais rappelez-vous, parallèle, c'est max. Donc le parallèle, c'est l'instruction la plus simple qui soit. C'est assez rigolo. Voilà le langage noyau en deux modes, le mode texte et le mode math. Le mode math est beaucoup plus court, donc beaucoup mieux dans les équations. Alors j'ai déjà fait un exposé sur ces deux modes et j'avais remarqué que dans la salle, les gens comprennent soit l'un soit l'autre en général. C'est-à-dire les gens qui sont habitués à programmer, ils comprennent la colonne avec des lettres, avec des mots, et les gens qui sont habitués aux maths, ils ne comprennent pas trop la colonne avec les mots, ils comprennent bien la colonne avec les maths. Alors j'avais deux écrans et deux baguettes, et je faisais en synchrone, le synchrone ça sert, je faisais l'explication sur les deux écrans, et ça me faisait rigoler de voir les yeux des gens qui étaient fixés sur un seul des deux transparents. Mais c'est la même chose. Donc nothing c'est 0, c'est ce qu'on vient de dire, c'est je retourne 0, et mettre S, je mets point d'exclamation S, pose c'est 1, on vient d'en dire, présent S, NP, LSQ, c'est la notation C. Alors, on n'a pas abort, on a un truc qui est un peu plus léger, dont je n'ai pas encore parlé, c'est suspend. Suspend, ce n'est pas abort, c'est juste gelé pour l'instant. C'est CTRL Z sur Unix. Hein. Pour l'instant, P, il ne bouge pas. On lui a volé l'horloge. C'est clock gating. Non, c'est pas clock gating, ce n'est pas ça. Pardon, j'ai dit une bêtise. Clock gating, on le verra dans STRV7. C'est S ne travaille pas. Quand il y a S, P ne travaille pas, sauf au premier instant. Où le premier instant ça part normalement, mais à partir de là, quand il y a S, P ne travaille pas. On contrôle l'action de P par S. La séquence, le parallèle, la boucle, qui est une étoile comme d'habitude dans les expressions régulières, le trap que j'écris avec un crochet, ça c'est juste pour injecter un truc dans une trappe pour renuméroter de façon efficace, je ne vais pas en parler, c'est très simple. L'exit, je ne retiens que son numéro, et ça c'est la déclaration d'un signal local, c'est l'instruction la plus difficile. La déclaration d'un signal local, ça s'écrit comme dans les calculs de processus, P backslash S. OK. Donc, voilà, c'est tout. Tout le reste se fabrique à partir de ça. Tout le reste. Et ces instructions sont indépendantes. Par exemple, je peux enlever le else d'un if, ça c'est connu, il suffit de mettre nothing dans le else. Alt, c'est jamais que la boucle surpose. Attendre S, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que je fais? Je fais une attente active, si on veut. Je définis un point de sortie, un trap, loop, pause, if S, then exit T, end loop. Ça veut dire quoi? Eh bien, je commence par attendre, puisque ce n'est pas immédiat. Si c'était immédiat, j'inverserais les deux instructions. Je commence par attendre, ensuite, je regarde s'il y a S. S'il y a S, c'est fini. S'il n'y a pas S, je reviens là et j'attends. Donc j'attends jusqu'à S. Trap est fondamental pour construire des instructions. Vous verrez des papiers où les gens disent « je traite STRL sans les trap ». Bon, STRL sans les trap, pour moi, il n'y a pas. Enfin, ce n'est pas un langage. Alors, attendre immédiatement S, on dit ben, « s'il y a S, on finit tout de suite, sinon on attend S », vous voyez. Et puis les boucles... Alors, abort, c'est plus intéressant. Abort, comment on fait? Eh bien, on va faire un trap, comme d'habitude, et on va mettre deux choses en parallèle. Une chose qui attend S pour terminer, ça c'est le moment de l'abortion, mais au moment de l'abortion, on suspend P pour qu'il ne fasse rien. Ça c'est l'abortion forte. Si on veut l'abortion faible, on enlève ça. Donc toutes les instructions, puis ça s'écrit comme ça, c'est pas super agréable, mais c'est pas grave, pour un compilateur ça ne gêne pas du tout. C'est tout à fait ça que fait un compilateur. Et voilà. Donc, toutes ces instructions, il y a très peu d'instructions noyaux, et c'est là-dessus qu'on va travailler pour faire la sémantique. Et puis, les boucles sont simples. Alors, on va faire la sémantique aujourd'hui, la sémantique qu'on appelle comportementale, qui est une sémantique qui n'est pas la première qui a été faite, mais qui a un défaut absolument majeur qu'on va voir. Mais c'est les premières tables de la loi. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un signal? Un signal, c'est quelque chose qui a toujours un statut en STRLV5, c'est qui est soit présent, soit absent à chaque instant. Il n'a qu'un seul statut à chaque instant. Soit 0, 1, c'est des notations pour la même chose. Il peut avoir une valeur optionnelle dans un type quelconque. Et puis, il peut avoir une fonction de combinaison, je ne parlerai pas trop de ça. Mais en gros, quand il y a plusieurs émetteurs simultanés, vous allez combiner toutes les valeurs émises par chacun avec une fonction associative commutative. Par exemple, ça c'est magique, vous voulez savoir combien il y a de gens dans la salle, vous leur dites « levez le doigt ». Donc, ils lèvent le doigt et automatiquement, sans rien faire, vous avez la somme, c'est-à-dire ils disent 1, si on veut, ils disent 1, chacun dit 1, et le résultat, la valeur du signal, c'est le nombre de gens. C'est magique et ça sert beaucoup. Bon, alors le statut, c'est à chaque instant, c'est présent ou absent, et c'est présent si et seulement si le signal est émis, hein, ou reçu de l'environnement. Mais il n'y a que les locaux qui vont nous intéresser, c'est eux qui sont difficiles, ou les outputs. Un signal d'output ou local est présent si et seulement s'il est émis. C'est assez logique. Et voilà, je ne veux pas parler des valeurs. Donc, le signal est diffusé dans tout le programme. Toutes les instructions voient le même statut S. Toutes les instructions voient la même valeur de S. Ça, c'est comme les fils dans un circuit. C'est pareil. Alors, la sémantique elle-même, elle s'écrit comme ça. Ce sont des règles de logique. On va dire un programme, quand on lui donne un signal, ça c'est l'ensemble des signaux qu'il va recevoir, ça c'est l'ensemble des signaux qu'il va émettre, et ça c'est comment il va dire son code de retour. Je vous rappelle, 0 pour terminaison, 1 pour pause, 1 sortie d'une trappe, 2 sortie de deux trappes, etc. Et la contrainte de diffusion, c'est-à-dire que tout le monde reçoit la même chose et seulement les choses émises, c'est ça, c'est que tout ce qu'on a émis est aussi reçu. Donc, c'est une contrainte qui dit que ça doit être à l'intérieur de ça, ça va être à l'intérieur de ça. Alors, les règles sont simples, je vous les montre, puis je vous donne tout de suite après leurs inconvénients. Alors, ça, c'est la règle qui marche pour nothing, pour pause et pour exit. C'est quand vous avez une instruction d'un code de retour K, vous rendez ce code de retour, vous n'émettez rien, vous allez sur 0. Ça fait à la fois pause. Donc, qu'est-ce que ça dit? 0 donne comme retour 0, donc il termine. 1 donne comme retour 0, 1, pardon, donc il s'arrête, mais il devient 0 pour le prochain coup. Hein? Ça, c'est la dérivée, c'est-à-dire c'est l'instruction qui fera le prochain coup. Émettre S, ben, ça termine et ça émet S. Un test, c'est très simple. Si le signal est dans l'environnement des signaux reçus, on fait comme P, donc on prend ce que fait P et on le recopie. Si S n'est pas dans l'environnement, on prend ce que fait Q et le recopie. Et suspension, eh bien, au début, on ne fait rien. Hein, la suspension n'est active qu'une fois le programme démarré. Au début, on fait comme le programme. Et ensuite, on se transforme en suspension immédiate. La suspension immédiate, c'est quoi? C'est ce petit bout de code qui dit « Tant qu'il y a S, je ne fais rien. Et dès qu'il y a S, dès qu'il n'y a pas S, je me remets en suspension normale. » Donc, je fais bosser P' un coup. Et je me retransforme pour le coup d'après en suspension comme ça. Ça, c'est une récursion entre deux modes de suspension, l'immédiat et le délayé. Bon, ce n'est pas très compliqué, hein. Ça va prendre deux secondes à regarder. Alors, le point-virgule est intéressant. Ce que dit le point-virgule, c'est si dans un point-virgule PQ, dans l'instant, dans cet instant, P ne termine pas, alors la séquence se comporte comme P. Si P termine, alors instantanément, donc au-dessus de la même barre logique, c'est ça que ça veut dire, dans le même instant, on va lancer Q. P émet E', Q émet F'. Q donne un certain code de retour L, il se termine, il arrête, il fait un exit, on s'en fiche. Et ce qu'on dit, c'est que P point virgule Q, comme il n'y a pas de perte de temps, les signaux émis par lui, c'est les signaux émis par les deux, ce qu'on a vu tout à l'heure, émit A, émet B, ça fait les deux en même temps, et puis ça se comporte en terminaison par comme Q. Et pour la suite, et pour la suite du programme, pour la suite des temps, ça se comporte comme Q. La boucle, c'est super simple, on la déplie une fois, c'est connu. Pour exécuter une boucle, il suffit de la déplier. Donc en gros, on se comporte comme P point virgule P star, c'est ça l'idée. Hein, on regarde ce que fait P, et puis on recolle la boucle derrière, on déplie la boucle une fois, complètement standard. Le parallèle, hyper simple, on fait P, on fait Q, on rassemble ce qu'ils émettent, c'est comme ça qu'ils se parlent. Je vous rappelle que ça, c'est contenu dans ça, ça, c'est contenu dans ça. Donc, à la fin, ça veut dire que E contient E', E contient F'. Donc, P entend tout ce que dit Q et Q entend tout ce que dit P. Hein, c'est une façon super compacte de dire ça. Ça demande un petit peu de le regarder dans le blanc des yeux. On n'a pas le temps de le regarder dans le blanc des yeux ici, mais c'est très documenté dans tous les sens. Hein. Donc, le parallèle, c'est une règle horriblement simple. La trappe, c'est très simple aussi. Ça dit si P... soit se termine, soit fait K égale 2, c'est-à-dire sort de ce trappe-là, alors la trappe P se termine. Tout ce que ça dit. Et par contre, si E soit pose, soit sort d'une trappe qui est plus haute que la trappe courante, alors soit on pose, soit on fait moins 1, c'est-à-dire on propage l'exception supérieure. Bon, si vous regardez ça, ça vous prendra 30 secondes à comprendre. Là, online, ce n'est pas forcément évident. Mais c'est un truc tout bête. Hein. Il y a deux façons de terminer. C'est soit le corps termine, soit on fait sauter cette trappe. Et sinon, il y a deux façons autres. C'est soit on pose, et dans ce cas-là, le trappe pose aussi, soit on fait sortir un trappe englobant, et dans ce cas-là, il faut faire moins 1 pour propager le trappe englobant et ne rien faire du trappe courant. Bon, celle-là, j'ignore. Et voilà l'importante. L'importante et la difficile, c'est celle qui nous a posé 10 ans de boulot au minimum, ou 15 ans de boulot, c'est celle-là. Pour un signal, il faut savoir si un signal est présent ou pas. Un signal est présent si et seulement si il est émis. Donc on va écrire ça. Il y a deux cas. Soit le signal n'est pas émis, et dans ce cas-là, il y a deux cas cohérents. Soit le signal n'est pas émis et pas reçu. Il n'est pas là, ça veut dire qu'il n'est pas reçu. Il n'est pas là, ça veut dire qu'il n'est pas émis. S'il n'est ni émis ni reçu, c'est bon. Je dis que quand je déclare ce signal local, ça a tout à fait du sens. Il n'y a pas de problème, je peux prendre cette transition. Je fais marcher P avec un signal S qui n'est ni émis ni reçu, c'est cohérent. L'autre cas, c'est le symétrique, c'est il est émis et il est reçu. Ces deux cas-là sont cohérents. Soit il est émis, soit il est reçu, soit il est émis, il est reçu. Ce que je ne vous dis pas, c'est comment savoir dans quel cas vous êtes. Mais ça, c'est la contrainte. Alors, si une seule des oreilles s'applique, on dit que le programme est déterministe. Ce n'est pas pour ça qu'on est content. C'est comme les circuits, si vous ramenez d'Hamlet. Par exemple, si je dis « if S, then emit S, end », je peux avoir deux hypothèses. Je peux dire « si S est présent, alors il est émis », cohérence, il est émis, il est présent, cohérent. « Si S n'est pas présent, alors il n'est pas émis », cohérence, si S n'est pas présent, il est cohérent. Ah, ça, ce n'est pas déterministe. Donc, je jette. Ça, j'en veux pas. Et on sait le détecter. Hein. J'en veux pas. Mais il y a aussi des trucs plus graves. Par exemple, ici, je peux dire « si S... » est absent, alors j'émets S. Incohérent. Parce que s'il est absent, il est présent. Et s'il est présent, il est absent, parce que je ne l'émets pas. Incohérent. Donc ça, je jette. Pas de problème. Contradiction pour la causalité. Celui-là, on l'a dit tout à l'heure, c'est deux choix possibles. J'aime pas. Ben, il y a des gens qui aiment. Hein. Celui-là, si S est présent, alors je l'émets, sinon je l'émets. Une seule possibilité, S présent. Il est émis dans les deux cas. Et cette possibilité est cohérente. Mais il n'y a pas de causalité. Il n'y a pas de raison. Le seul truc qui dit qu'elle est présente, c'est un raisonnement par l'absurde. Hein ? Ah, ce n'est pas constructif. C'est de la logique classique, mais ce n'est pas de la logique constructive. Si vous faites un circuit avec ça, le circuit que vous obtenez, c'est Hamlet. To be égale to be or not to be. On l'a déjà vu, celui-là. et on sait que celui-là, électriquement, il n'est pas bon. Pas bon pour tous les délais. Donc, moi, je crois à la physique. Et je crois que ça ne suffit pas d'avoir des raisonnements dans sa tête. Et quand on a un truc aussi fort que l'électricité comme soutien, il faut le croire. Donc, l'opinion d'Esterel, c'est ce truc-là, on le jette parce que ce n'est pas constructif. Mais comment on fait pour le jeter la prochaine fois? Alors, quand même, prendre une minute pour vous montrer comment on fait, parce qu'il faut l'avoir vu aujourd'hui pour le revoir la fois d'après. Hein, une minute sur le temps d'Emmanuel. Voilà. Alors, je vais faire un tout petit programme tout bête. Émettre X. Si X n'est pas là, alors émettre Y. Si X... Ah oui, il y a not en SRL, très important. Hein. Si Y n'est pas là, then emit dead. If not, il suffit d'inverser le Zn et le F. Hein. Bon, alors comment on va faire? On va alterner, on va faire comme en logique constructive. On va propager des faits. C'est la seule chose qu'on va faire, c'est propager des faits. Mais on va propager alternativement des faits positifs et des faits négatifs. Alternativement. Mais propager des faits. On n'a jamais le droit de faire des hypothèses. Les électrons ne font jamais d'hypothèses. Première chose, on regarde ce qu'on doit faire. Je dois émettre X. Je dois calculer ce if. Je dois calculer ce if, mais je ne sais pas calculer ce if parce que je n'ai pas la valeur de x, je n'ai pas la valeur de y. Mais je dois émettre x. J'en déduis que x vaut 1. Je n'en déduis rien de plus pour l'instant. Je regarde. Alors, ce if note là, ouais, en fait, j'en déduis immédiatement que je ne peux pas faire ce zen. Puisque x vaut 1, j'en déduis que je ne peux pas faire ce zen. Donc là, je vais avoir une construction positive d'une information négative. Je ne peux pas exécuter ce code. Ne pouvant pas exécuter ce code, je vois aussi que Y ne peut être émis qu'en un seul endroit du programme. Donc, j'en déduis que Y vaut 0, puisqu'il n'y a plus d'émetteur. À partir de ce moment-là, je peux refaire un must, et j'en déduis que Y vaut 0, donc not Y vaut 1. Donc là, j'ai le droit de faire emit Z, et Z vaut 1. Et là, on va écrire la prochaine fois les règles de preuve qui font cette logique constructive. Et le résultat principal qui a conduit à tous les développements d'Esterel V5 et V7, ça va être la chose suivante. Les règles logiques d'Esterel, on peut les mapper directement dans l'électricité. C'est-à-dire qu'on peut faire un circuit tel que la propagation électrique qui réalise la logique constructive booléenne va exactement réaliser la logique constructive d'Esterel. Donc on va avoir une continuité totale, et ensuite on va pouvoir prendre ce circuit et en fabriquer du logiciel et le faire voler. Donc on va avoir une continuité totale entre définition propre des langages grâce à ces règles que j'ai montrées tout à l'heure, qui sont les règles de sémantique opérationnelle structurelle de Plotkin, une des plus grandes découvertes des langages de programmation au XXe siècle. Il n'y avait pas de langage de programmation au XIXe siècle, donc de tous les temps. Les règles SOS de Plotkin ont sauvé la sémantique de façon incontestable. Il est très intéressant de savoir qu'elles sont écrites dans un livre qui est une note de cours à l'université de Rousse qui n'a jamais été publiée, mais qui est sûrement un des tout plus célèbres livres du domaine de Gordon Plotkin, que je salue s'il est à l'écoute. Bien, et donc on verra ça la semaine prochaine. Juste avant de terminer, ça va nous permettre de faire quelque chose qui a beaucoup embêté Dassault à une époque, c'est que quand on prend deux programmes et qu'on les combine, eh ben ça fabrique très facilement des cycles. Et que les utilisateurs viennent nous voir en disant « Mais ces cycles, ils sont tout bons. Pourquoi vous les rejetez ?» Et par exemple, ici, vous avez un cycle, X implique Y ou Y implique X, donc quand vous mettez les deux ensemble, ça fait un cycle. Mais vous avez un if qui va dire « Soit vous êtes dans cette branche-là, soit vous êtes dans cette branche-là. » Donc ça, ça va être accepté. Ou alors, entre les deux, vous avez un délai. Vous avez un cycle, mais les deux sens du cycle ne se sont pas pris au même instant. Ça va être accepté. Et c'est exactement la même chose qu'on faisait pour les circuits. L'électricité accepte ça très bien. Voilà. Donc, la suite au prochain numéro. Merci. On va passer donc à l'exposé sans discontinuer à l'exposé d'Emmanuel. Et on fera une petite séance de questions après. Pour les internautes, vous avez le droit d'envoyer des questions par mail. Hein. Merci.